Chapitre 13. Les succès de Poltavo. Poltavo était en effet rentré en ville et avait déjà fait une brillante apparition dans les salons les plus cotés de la capitale. Jusqu'alors, sa situation financière et sa position sociale avaient bien fait l'objet de quelques doutes, et les maîtresses de maison prudentes avaient hésité avant de l'inviter. On se chuchotait que son titre de comte ne signifiait rien, qu'il y avait une demi-douzaine de Poltavo dans le Gotha et qu'il était bien difficile d'être au clair sur son origine. Lui-même répondait à peine ou par monosyllabes dédaigneuses aux questions qu'on essayait de lui poser négligemment au hasard des conversations. Mais après son bref séjour à Bradley, les plus sceptiques n'eurent plus d'excuses à ne pas l'admettre sur un pied d'égalité dans le monde le plus fermé. Le jour même de son retour, il loua un délicieux appartement à Burlington Gardens, acheta deux autos de grand luxe, qu'il paya comptant, fit de nombreuses emplettes de tout genre et, pour tout dire, se mit immédiatement à vivre en homme habitué à la plus large opulence. Il avait profité de la sévère leçon reçue à la maison magique. Depuis cette heure de transe épouvantable où il avait pu craindre une mort immédiate et sans phrase, il était dompté. Sans l'avoir voulu avouer au docteur Folny à son maître, il avait décidé de modifier son plan de conduite et de se soumettre, au moins en apparence. « Je vous obéirai, » se murmurait-il à lui-même, en classant les papiers de son bureau moderne style. « Oui, je vous obéirai, tant que j'y trouverai mon avantage. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que je ne vous procurerai plus le plaisir de ma présence à la maison magique. » Poltavo était donc actuellement bien pourvu d'argent, mais il devait agir selon les ordres reçus. Il connaissait maintenant à fond l'organisation de l'indiscret, qui avait des centaines de collaborateurs et de correspondants épars dans tous les pays et recrutés dans toutes les classes de la société. Le journal ne rapportait par lui-même pas grand-chose, mais il payait bien ses collaborateurs occasionnels et offrait des prix supérieurs à la moyenne pour tout article acceptable. Nombre d'hommes et de femmes en proie au malin désir de se venger de quelque ennemi lui adressait des informations qui étaient publiées, avec ménagement, quand il s'agissait de gens impossibles à saigner. Mais très souvent, ces articles visaient des scandales qu'il était difficile d'imprimer. Cependant, le collaborateur était payé. Dans quelque lointain château de campagne, un valet haineux ou une femme de chambre envieuse recevait bien un mandat postal, mais sans jamais découvrir dans les colonnes du journal leurs phrases laborieusement construites et remplies de fiel. Par contre, les malheureux objets de ces révélations recevaient quelques jours plus tard une lettre du mystérieux Fallock, où ils voyaient avec horreur leurs précieux secrets étalés. Jamais ils ne songeaient à associer cette lettre de chantage avec la sale petite feuille qu'il voyait quelquefois traîner à l'office. Fallock agissait en maître, vendait son silence à des prix si élevés qu'il ne pouvait y avoir un rapport quelconque entre les deux organisations. Mais ce n'était pas seulement une prose de domestique qui alimentait l'indiscret. Souvent, des hommes ou des femmes, ayant perdu tout sentiment de décence et d'honneur, trahissaient cyniquement des égaux ou même des amis qui avaient eu le malheur de les offenser et envoyaient sur eux des détails scandaleux. D'une façon anonyme quelquefois, mais quand l'affaire semblait intéressante, quelque émissaire de Fallock avait vite fait d'en découvrir le bien fondé. Aussitôt, la lettre habituelle proposant un arrangement arrivait et la victime sortait généralement fort appauvrie de l'aventure. Elle devait s'estimer heureuse quand ce n'était qu'une plaie d'argent. Car cet homme sans cœur, ce vrai bandit, avait autre chose que ses vols sur la conscience. De nombreux suicides récents avaient fait l'objet d'une enquête serrée, et dans plusieurs cas, l'acte désespéré avait été visiblement causé par une lettre reçue et brûlée peu d'heures auparavant. Le bureau du journal n'avait guère changé d'aspect depuis le jour où Poltavo y était entré. Un seul employé y devait recevoir la correspondance, en faire un paquet qu'il allait consigner dans une gare de Londres. Une heure après, un autre employé venait reprendre le paquet qu'il allait mettre en consigne autre part. Et ce n'est qu'après ces multiples transferts que le courrier arrivait en main de l'éditeur responsable. À part les potins assez insignifiants qui remplissaient les colonnes du journal, il y avait un article de 2 pages d'informations mondaines où Fallock Farrington s'appliquait à donner vraisemblance et vie à son périodique. Une annonce permanente offrait 5 livres sterling pour toute information intéressante. Et, oh, il faut le dire à la honte de l'humanité, il arrivait que la caisse du journal payât de ce chef près de 1000 livres en une semaine. Farrington devait reconnaître qu'il avait eu la main heureuse en s'adjoignant Poltavo. Celui-ci était instruit, psychologue et prudent. Dans son splendide cabinet de travail, il songeait à l'avenir en triant sa correspondance. Il voyait tout en beau et était parfaitement satisfait de sa situation actuelle, qui lui offrait de très gros profits avec un minimum de risques. Durant les quelques heures passées en compagnie de Farrington, celui-ci lui avait fait observer l'utilité des petits bénéfices. « Si vous ne pouvez tirer que 5 shillings d'un ouvrier, lui avait-il dit, n'hésitez pas, ne méprisez pas les petites sommes. » En conséquence, Poltavo examinait avec une même attention les épîtres mal écrites et bourrées de fautes d'orthographe des petites femmes de chambre vicieuses que les billets d'allure aristocratique des prétendues bonnes amies de quelques mondaines coupables d'une faiblesse momentanée. Il triait méthodiquement cette douteuse correspondance, plaçant à sa droite ce qui pouvait paraître dans le journal et réservant la pile de gauche pour un usage plus lucratif et illicite. Mais tout à coup, il s'interrompit, resta un instant songeur. « Se peut-il qu'elle doive se marier avec Dalton d'ici 8 jours ?» se dit-il. Il semblait bien, en effet, qu'il en devait être ainsi. Farrington l'avait exigé et Poltavo, en ce qui le concernait, n'avait eu qu'à s'incliner. « Mais faut-il donc que je renonce à elle ?» murmura-t-il encore. « Oh non, elle est trop belle, je la veux. Oh non, il ne faut pas trop m'en demander. Vais-je me laisser faire? Oh, il faut que je me débrouille d'ici à lundi. » À ce moment, son téléphone de bureau sonna. « Oui, » dit-il. Et comme il reconnut la voix de Doris, son visage prit aussitôt une expression de douceur feinte. « Pourriez-vous venir me voir demain ?» lui demanda-t-elle. « Bon, aujourd'hui, immédiatement même, si vous voulez. » Son interlocutrice parut hésiter. « Eh bien, » dit-elle enfin, « cela me ferait plaisir, je suis un peu ennuyée. »« Bon, rien de grave, j'espère. J'ai reçu une lettre embarrassante. »« Ah oui, je crois que je comprends. » « Quelqu'un veut que vous fassiez une chose qui vous déplaît. »« Je n'irai pas jusque-là, » répondit-elle d'une voix triste. « Mais tout ce que je sais, c'est que les événements prennent une tournure qui m'effraie. »« Connaissiez-vous le contenu de cette lettre ?»« Oui, » dit-il de sa voix la plus sympathique, « et j'ai eu le malheur d'en être le désolé messager. »« Eh bien, qu'en pensez-vous ?» demanda-t-elle après un silence. « Vous savez bien ce que j'en pense, » fit-il ardemment. « Vous ne vous attendez pas, j'espère, à ce que je l'approuve. » La chaleur qu'il mit dans ces mots parut effrayer la jeune fille, et elle s'efforça de lui faire reprendre son sang-froid. Venez demain, dit-elle, je serai heureuse de causer un peu avec vous. Mais je viens tout de suite. Non, il vaut mieux demain. Si fait, je viens immédiatement. En 7 minutes, il oublia tous les dangers dont il avait été menacé à la maison magique. Il ne ressentait plus qu'un instinct de chasseur qui sent la belle proie prête à tomber devant lui. 5 minutes plus tard, il se trouvait à Bradley Square dans le salon de Doris. Elle était pâle et triste. Elle avait les yeux cernés, les traits fatigués. « Je ne sais vraiment que faire, dit-elle. J'aime beaucoup Franck, mais se décider ainsi, si subitement... Puis-je vous parler à cœur ouvert, comte Poltavo? Vous pouvez vous fier entièrement à moi. Eh bien, si je l'estime fort, je dois dire que ce n'est pas tout de même au point de me marier tout de suite avec lui. Mais vous allez le faire tout de même. Mais comment puis-je désobéir à cette lettre? Elle lui tendit la missive qu'il prit et alla lentement, délicatement jeter dans le feu. « Je vois que vous n'avez déjà pas obéi entièrement aux instructions qu'elle contenait, » dit Poltavo en souriant. Chose étrange, cet acte par lequel il avait voulu démontrer le peu de cas qu'il fallait faire de cette lettre, alla à fin contraire. Doris crut qu'il agissait par crainte de Farrington, et par une de ces sautes d'humeur qui lui étaient familières, elle en voulut à Poltavo de cette faiblesse. « Maintenant, écoutez-moi, » dit-il d'un ton paternel, « vous n'allez pas vous faire du souci. Vous ferez exactement ce qu'il vous plaira et vous me permettrez de tout arranger avec Farrington. Il est très autoritaire, c'est vrai, il a peut-être des raisons de vous faire épouser Doughton, mais à cet égard, j'ai l'intention de me renseigner plus exactement. » En attendant, chassez tout ce souci et laissez-moi faire. » Elle secoua la tête. « Je ne peux pas, dit-elle. À moins d'avoir une lettre de mon oncle et tuteur révoquant ce qu'il a dit précédemment, je dois suivre ses désirs. C'est mieux d'être mise dans une position pareille. C'est affreux. Mais comment ce mariage peut-il lui aider, le sauver, comme il dit ? Pouvez-vous m'expliquer cela ? Avez-vous causé avec M. Doughton ? Demanda-t-il au lieu de répondre à la question posée. Non, je lui ai écrit. Voulez-vous voir la copie de ma lettre ? Il sentit une rage sourde et violente l'envahir, mais il se domina. Volontiers, dit-il. Elle lui tendit la copie. Il lut. Mon cher Franck, pour une raison que j'ignore, il faut, paraît-il, que notre mariage, si désiré par mon oncle, ait lieu dans le courant de la semaine prochaine. Vous connaissez mes sentiments à ce sujet. Je n'éprouve pas d'amour pour vous, et si tout était laissé à mon libre choix, ce mariage ne se ferait pas. Mais, pour des motifs que je ne puis expliquer en ce moment, je dois m'incliner. J'ai beaucoup de chagrin à vous parler ainsi. Je connais assez votre largeur d'esprit, votre indulgence, votre compréhension, pour être certaine que vous ne m'en voudrez pas de vous avoir dévoilé le trouble de mon cœur. » Lorsque Poltavo eut lu cette lettre si touchante et embarrassée, il la posa sur la table et fit quelques pas de long en large dans le vaste salon. « Mais par la Madone ! » s'écria-t-il tout à coup, avec la fougue et l'accent du méridional qu'il était. S'il s'agissait de moi au lieu de Doughton, hésiteriez-vous autant ? Devant le regard alarmé de Doris, il comprit son erreur. Il avait confondu sa reconnaissance avec un sentiment plus profond. En un éclair, il se rendit compte des véritables sentiments de la jeune fille et y vit plus clair qu'elle-même. Il sut à n'en pas douter qu'en fin de compte, c'est Frank Doughton qu'elle préférerait. Il arrêta du geste les confuses paroles qu'elle disait. « Oh, inutile !» déclara-t-il. « Mais peut-être un jour vous rendrez-vous compte de la grandeur et de la force de mes sentiments. sentiment unique dans ma vie. Sa voix tremblait, et peut-être était-il sincère. Il avait dit ces choses déjà à bien d'autres femmes, oubliées depuis longtemps, mais chaque fois, sa nature passionnée l'emportait. « Maintenant, ajouta-t-il vivement, il faut attendre la réponse de M. Danton. »«
Il a déjà répondu, répondit-elle. Il m'a téléphoné. » »«
Oh, c'est bien anglais, fit-il en souriant. Et à quand la cérémonie ?»«
Oh, je vous en prie, s'écria-t-elle en se couvrant la figure de ses deux mains. Je n'ai encore que bien juste la force d'accepter en principe les volontés de mon oncle. »
« Mais cependant, quand ?»«
Oh, dans 3 jours, Franck doit faire le nécessaire. Nous allons, enfin... »
Elle hésita un moment, puis reprit.
« Nous irons à Paris. »
Elle s'arrêta encore, rougit et acheva enfin.
« Franck veut que, pour le moment, notre mariage ne soit qu'une simple formalité légale. »
« Je comprends, dit-il, Monsieur Danton témoigne là d'une délicatesse que j'apprécie grandement. » À ces mots, de nouveau, elle se sentit irritée contre Poltavo. Son attitude, son affectation de supériorité, l'imperceptible allure de maître qu'il prenait, lui déplurent. Il y avait même quelque impertinence à approuver ainsi de très haut l'attitude de Franck.
« Vous êtes-vous demandé, demanda-t-il avec un instant de silence,
ce qui arriverait si vous n'épousiez pas Danton malgré les désirs de votre oncle? Quelle est donc la terrible catastrophe qui s'abattrait alors sur lui ?»«
Je l'ignore, dit-elle, franchement. Je commence seulement à me douter du véritable caractère de M. Farrington. » « Jusqu'ici, je n'avais vu en lui que le meilleur des hommes, et maintenant... »
Elle s'interrompit, n'osant dire toute sa pensée. Poltavo y suppléa. « Et maintenant, dit-il, vous savez qu'il est fourbe, méchant et même criminel, qu'il joue depuis des années, à son profit, avec les malheurs et la crédulité de son prochain. » « Cela a dû être pour vous une terrible découverte, Miss Gray. Cependant, vous reconnaîtrez qu'il n'a pas touché à votre fortune. »«
Mais c'est affreux, » fit-elle à voix basse. « Chaque jour m'apporte quelques nouvelles révélations. » »« Ma tante Lady Dinsmore avait bien raison. » »«
Lady Dinsmore est la sagesse même, mais en quoi avait-elle particulièrement raison ?»
« Oh, je le sais si j'ai bien le droit de vous le répéter, » répondit Doris en secouant la tête. « Mais il le faut, sans doute. Eh bien, elle a toujours soupçonné M. Farrington d'être engagé dans des affaires louches et m'a fréquemment averti. »«
Elle est très intelligente, » fit Poltavo. « Dans 3 jours, » reprit-il d'un air songeur. « Eh bien, en 3 jours, il peut arriver beaucoup de choses. » J'avoue, j'aurais surtout voulu connaître quelles terribles conséquences votre refus aurait eu pour Farrington. » Il n'attendit pas sa réponse et, s'inclinant, il prit congé. « 3 jours, se répétait-il en revenant chez lui. Mais pourquoi donc Farrington est-il si pressé de marier cette fille? Et pourquoi a-t-il choisi ce pauvre petit journaliste? Cette question demandait à être examinée longuement. Les 2 premiers jours, Frank Dawson vécut comme dans un rêve. Il ne voulait pas croire à son bonheur, fortement tempéré pourtant par l'aveu de Doris. Il savait qu'elle agissait contre son gré, mais il se promettait de gagner rapidement son amour. Il était plein d'optimisme et de confiance en soi et dans les autres. Il voulut employer ces derniers jours à éclaircir l'affaire Tollington au moyen de la vieille lettre retrouvée dans l'ancien bureau de poste. Il avait soigneusement parcouru les registres de l'état civil et noté toutes les personnes portant le prénom d'Annie. Mais il y en avait des centaines et de plus
Beaucoup d'autres qui ne figuraient nulle part pour une raison ou pour une autre, soit qu'elle n'ait porté ce prénom que comme nom d'amitié, soit que, mariée, leur époux seul ait été inscrit. Il enleva cependant un ou deux indices qu'il chercha à compléter. Mais ses pensées étaient ailleurs en ces heures précédant son mariage, c'est à peine s'il put se tenir à son travail d'ordinaire. Lorsqu'il eut achevé les articles promis, l'avant-veille du jour fixé pour son mariage, il les porta lui-même au directeur du Monitor. Celui-ci lui présenta ses félicitations. « Je suppose qu'il ne faut plus compter sur votre copie durant un certain temps, » lui dit cet aimable homme en souriant. « Oh, pas tant que cela, » répondit Franck. « Je ne vois pas pourquoi je vivrais en oisif sous prétexte que je suis marié. Ma femme a une grosse fortune, c'est vrai, mais j'ai la ferme attention de n'en pas utiliser un sou pour mes besoins personnels. » « Bravo !» fit le directeur en lui tapant familièrement sur l'épaule. « Ça, c'est bien parlé. L'homme qui vit de la fortune de sa femme n'est plus rien. » « J'approuve cette maxime, » dit Dalton. En descendant du cabinet directorial, il regarda sa montre. Il était 9 heures et il n'avait pas dîné. Il décida d'aller prendre un frugal repas dans un restaurant de Soho et de se coucher de bonne heure. Il avait eu une journée fatigante et celle du lendemain devait l'être davantage encore. Devant l'hôtel du journal se trouvait une luxueuse auto tout étincelante de vernis neuf. Le chauffeur le salua. « Excusez-moi, monsieur, dit-il, vous êtes bien monsieur Frank Dalton ?»« Oui ?» répondit le jeune homme surpris. « J'ai ordre de venir vous chercher. »« Me chercher, mais de la part de qui ?»« De la part de Sir George Frederick. » Sir George Frederick était un membre influent du Parlement, mais Frank Dalton n'arrivait pas à se rappeler s'il lui avait déjà été présenté. « Mais, dit-il enfin, puis-je savoir ce que Sir George Frederick désire de moi ?»« Oh, 5 minutes de conversation, m'a-t-il dit, » répondit le chauffeur. Le jeune homme hésita, mais il eût été bien impoli de ne pas accéder à la demande d'un tel homme. D'ailleurs, il réfléchit que cela ne l'écarterait pas beaucoup de sa route. Il ouvrit la portière et monta. Mais en entrant dans la voiture, il s'aperçut qu'il y avait déjà quelqu'un. « Qu'est-ce que ?» commença-t-il. Il ne put achever. Une main vigoureuse l'avait saisi à la gorge. Il fut vivement repoussé au fond de la voiture qui déjà avait pris de la vitesse.